premier choc, c'est qu'il fallait que je découvre qu'est-ce que c'est qu'un adolescent blanc comme moi. J'avais jamais vu, ou pratiquement. Eh bien, moi, d'une part, je suis un fils de missionnaire, c'est bien pour ça que je suis là ce jour, ici, dans ce témoignage. J'ai vécu assez longtemps en Nouvelle-Calédonie, et puis ensuite, j'y étais aussi en tant que professeur de sciences de la vie et de la terre, et puis responsable de mouvements de jeunesse. Et puis ensuite, j'ai été professeur au collège Sévenol international, et puis ensuite responsable dans l'association Arocha France, et maintenant je suis retraité. Je suis marié, j'ai 4 enfants et 9 petits-enfants. Voilà. Donc, une belle famille aussi et voilà, beaucoup de joie dans la famille. Mon lien avec le DFAP, il est à la fois ancien et récent. Il est ancien dans la mesure où j'ai été enfant missionnaire sur un champ de mission qui était de la Société des Missions de Paris, donc avant la naissance du DFAP. Et puis, il est récent aussi parce qu'il y a quelques années, j'ai repris contact avec le DFAP à l'occasion, la SEPF, une association pour le soutien aux écoles protestantes francophones à l'étranger et qui travaille toujours avec le Vanuatu. Et à cette occasion, j'étais amené à venir au DFAP pour la journée des associations portées par le DFAP. C'est comme ça que j'ai renoué mon lien avec le DFAP il y a quelques années. Mon enfance sur un champ de mission, pour moi, j'en garde un souvenir extraordinaire. Et avec le recul, parce que je suis retraité maintenant, je me rends compte de tout ce qu'il a apporté à ma formation, à ma construction, à la construction de ma personne. Alors, je sais que ce n'est pas toujours le cas, qu'il y a des enfants de missionnaires pour qui l'enfance sur un champ de missionnaire n'a pas été facile pour des raisons x, y parfaitement compréhensibles. Moi, ce qui me concerne, c'était d'une très grande richesse. Parce que le champ missionnaire sur lequel j'étais, c'était Doneva, le vrai pays, comme a dit Maurice Lénard qui l'a créé. Et il était extrêmement riche du par sa diversité. Il y avait d'une part une école pastorale. C'était même le deuxième cycle de l'école pastorale, puisque les pasteurs en formation commençaient sur l'île de Lifou, à l'école actuelle qui s'appelle Bethany. Mais ils devaient venir faire leur deuxième cycle à Doneva, où mon père était enseignant. Et du coup, quand ils arrivaient à Doneva, ils arrivaient en famille, avec des enfants, qui avaient mon âge à peu près, qui parlaient tous la langue de Lifou, le Tehu, parce qu'ils avaient grandi là-bas. Et donc, j'ai passé une bonne partie de mon enfance avec tous ces enfants. Ce qui fait que la langue de Tehu était presque ma seconde langue maternelle. Et puis, ces familles, il fallait non seulement les étudiants, on les appelait les étudiants, faisaient des cours, suivaient les cours de théologie, de pastoraux, mais leur épouse apprenait la couture, l'hygiène, tout cela, et c'était ma mère qui était en charge. Et donc moi, je passais mes journées dans ces ateliers de couture, à rembobiner les canettes, à enfiler le fil, tout ce qu'un gamin un peu bricoleur peut faire. Et toutes ces dames qui étaient autour de moi, c'était un peu comme des tantines. On parlait le lifou ensemble. Voilà, j'étais un petit peu leur enfant. Et puis les étudiants pasteurs, eux, il fallait bien qu'ils gagnent aussi de quoi vivre et nourrir leur famille, parce que la station était en totale autonomie financière. Et mon père avait trouvé des contrats avec une scierie qui était à peu près à une heure et demie de chez nous. Et donc, il avait organisé les cours pastoraux en alternance. Une semaine, les étudiants étaient en cours, pendant que la moitié était à travailler à la scierie. Et donc, tous les lundis matins, mon père devait conduire l'équipe à la scierie du col des Roussettes. Et moi, petit gamin, j'étais dans le camion et j'étais avec mon père. Et puis là-haut, les scieries, les bulldozers et tout ce qu'il y a, j'étais fasciné. Donc, grande recherche là-dessus. Et puis, sur cette station, il y avait aussi ce qu'on appelait l'école pratique, c'est-à-dire de jeunes adultes qui étaient là pour se former à la charpente, à la maçonnerie, à tout ce qui est une école technique, et qui le pratiquait en construisant ou en améliorant tous les bâtiments de la station. Donc j'étais aussi sur les chantiers de maçonnerie, de charpente et compagnie. Et puis il y avait aussi des spécialistes de menuiserie, donc j'étais aussi dans les ateliers de menuiserie. Tout ça, ça remplaçait mon école maternelle et mon cours préparatoire. École maternelle, ça n'existait pas. Cours préparatoire, mes parents estimaient que apprendre le français, apprendre à compter, lire et écrire, ça se faisait bien mieux à la maison que à l'école du village qui était à 3 km, où de toute façon les enfants arrivaient en ne parlant pas le français, il fallait déjà commencer par faire de l'initiation, donc j'aurais perdu mon temps. Donc moi, au lieu d'aller à l'école, ou à l'école maternelle, ou au cours préparatoire, j'étais sur ces chantiers. Menuiserie, là c'était les cadres qui faisaient des meubles et qui m'ont appris à raboter, à utiliser, voilà, à me donner des bons coups de marteau sur les bois, j'ai eu pas mal de bleus, etc. Mais tracer, couper, scier la scie à gouaine dans le sens de fil du bois ou contrebois. Et d'ailleurs, j'ai encore chez moi l'équerre que j'ai reçue à cette époque-là et qui me sert encore à faire mes bricolages à la maison. Donc tout ça, c'est une grande richesse. On avait aussi des véhicules, donc des camions, des choses comme cela. Il y avait donc aussi un atelier de mécanique. On avait un mécanicien extraordinaire, Monsieur André Denis, qui était capable de démonter entièrement un camion. Moi, j'ai vu le camion, il restait que le châssis, hein, il n'y avait plus rien, tout repeint, tout remonté, et j'étais avec lui, voilà, comme un poisson dans l'eau. Il y a même une anecdote amusante qui dit que, je sais pas, je devais avoir 3-4 ans quand je vais au village et je vois quelqu'un en train de réparer son moteur et de faire son rodage de soupape, et je lui dis: non, mais attendez, vous savez pas vous y prendre, je vais vous montrer comment il faut faire. C'était assez amusant, voilà. Voilà pour dire toute la richesse qu'il y avait. Il fallait aussi nourrir toute cette population, que ce soit les internats ou autres. Donc mon père avait organisé dans les villages voisins les collectes de nourriture. Les paroisses nourrissaient et donc chaque semaine aussi avec le camion. Et puis moi à côté, on allait chercher tout ce qui était bananes, manioc et taro et autres ingrédients. Je me souviens même avoir vu comment on fabrique la chaux dans un four à chaux et assister, ce qui fait que quand je me promène en France, même sur certains lieux anciens, je repère, okay, ça doit être un ancien four à chaux. Ah bon, comment tu sais ça? Comment t'as... Eh ben, ça se voit, non, c'est évident. Les choses sont évidentes pour moi alors qu'elles ne le sont pas pour d'autres. Bon, tout ça pour dire que techniquement, c'était d'une richesse énorme pour moi et tout un apprentissage. D'autant plus que toutes ces personnes étaient des personnes extraordinaires de, je dirais, d'inventivité, parce que les objets que l'on utilisait, les moyens que l'on avait, on était loin de la ville. Je peux même dire que un des anciens m'a appris comment, avec un clou de charpente, on peut faire une mèche pour perforer le bois. Et ça, je pourrais vous le faire encore aujourd'hui. Ben, ça, il faut vraiment avoir vécu dans ces conditions pour savoir comment transformer un clou en mèche à bois. Un autre aspect qui a été extraordinaire aussi pour moi, c'était toute la dimension de relations sociales qu'il y avait. Parce que non seulement ça a été technique, mais quand on connaît le peuple mélanésien, on ne disait pas Kanak à l'époque, parce que Kanak s'écrivait avec un C et c'était une insulte, hein. Et donc j'ai eu du mal à m'adapter à la terminologie nouvelle où on peut parler des Kanaks avec un K, c'est-à-dire la dignité du peuple Kanak. Mais dans mon enfance, je ne me serais jamais permis de parler de Kanak, on parlait de Mélanésien quand on était respectueux. Et donc toute cette culture mélanésienne, j'en étais imprégné aussi. Toutes ces personnes qui m'entouraient, pour la plupart, je les appelais tonton ou tantine. Certains, c'était même papa ou maman, hein, en langue locale. Et cette dimension-là, ça a été quelque chose d'important pour moi parce que effectivement, il y a tout cet accueil, toute cette bienveillance, toute cette pédagogie, d'être aussi accepté, ben, un peu comme un de leurs enfants avec eux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et en même temps, on est marqué, quand on vit dans ce milieu, par les codes qu'on appelle la coutume, Alors c'est extrêmement important parce que ça nous apprend il y a certaines choses qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas directement. Il y a des façons d'adresser la parole. Il y a des chemins quand on a un reproche à faire à quelqu'un, on ne le fait pas directement, on doit le faire par la personne qui est autorisée à l'entendre et à le remettre. Ce sont des codes. On doit respecter. Et quand on respecte, on est respecté. Alors c'est très riche, ça facilite pas mal de relations. Quelquefois, c'est un peu lourd aussi, hein. Ça peut être générateur de freins et ça peut aussi briser un petit peu certaines autonomies. Mais ça veut dire que la vie, elle est faite aussi de codes et qu'il faut savoir les respecter. Et quand on apprend ça dès son enfance, je crois que c'est utile toute la vie. Peut-être que maintenant, les enfants, où il y a eu un moment où les enfants, ils sont un peu rois et ils n'ont pas de code, je ne sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, cette culture mélanésienne, moi, m'a beaucoup apporté. Alors, vivre dans ce milieu, dans ce contexte, voilà, ça formate un petit peu. Et ça s'est prolongé d'une certaine façon parce qu'ensuite, collège et lycée, j'ai tout fait par correspondance à la maison, loin de tout contact avec ce qui pourrait être la population de mon ethnie. Alors, ça donne beaucoup d'autonomie, mais il se trouve qu'à l'occasion des congés de mes parents, j'ai dû venir en France et je me suis retrouvé dans un lycée de la région parisienne, à Montmorency pour être exact. Pour la première fois de ma vie, je mettais les pieds dans un lycée et c'était au mois de mars en classe de première. Donc, ça a été un certain choc. Premier choc, c'est qu'il fallait que je découvre qu'est-ce que c'est qu'un adolescent blanc comme moi. J'avais jamais vu, ou pratiquement. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un établissement scolaire avec des horaires, avec des emplois du temps, avec obligation de faire les maths le mardi de 9h à 10h, alors que ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Par correspondance, je faisais les maths à l'heure que je voulais et le jour que je voulais. Avec aussi cette chose curieuse qu'en cours, on nous apprenait des choses qu'on pouvait trouver tout seul dans les livres. Je me demandais bien pourquoi j'étais en cours pour entendre un professeur expliquer ce que j'avais toujours eu l'habitude de trouver tout seul. Et le plus grave, c'est que le soir, en sortant du cours, il me fallait faire des devoirs, ce que j'avais jamais appris à faire puisque moi, je les faisais dans la journée. Et quand arrivait 17h ou 16h en Calédonie, bon, ben, j'allais à la rivière, j'allais me baigner, j'allais à la pêche. J'aurais jamais eu l'idée de devoir me mettre à travailler à la maison les soirées. Enfin, c'est impensable. Oh, vous imaginez le travail quand on arrive en première. Bon, la nature est ainsi faite qu'au bout de quelques mois, je me suis adapté, je me suis très bien plu et que ça s'est bien passé, mais ça a été assez curieux comme expérience. Alors quand je parle de cette période magnifique que j'ai vue en Calédonie et dans l'environnement mélanésien, je ne dois pas oublier que ce n'est pas le paradis non plus. Et que forcément dans des communautés, il y a des moments où il y a des tensions, il peut y avoir même de la violence. Et que ce soit à l'intérieur des familles, que ce soit entre les groupes, que ce soit à l'école primaire dont je n'ai pas parlé, mais qui était aussi tout un ensemble d'élèves. Et étant imprégné et présent au milieu de tout cela, de même qu'à table avec mes parents, les conversations, à cette époque-là, les enfants, ils ne parlaient pas à table, mais ils entendaient tout ce que disaient les adultes. J'ai donc vécu aussi tout ce qui était un petit peu à la fois brisure de relations, et puis réconciliation, et puis parfois séparation, des choses comme cela. Et ça m'a permis à ne pas avoir, en quelque sorte, trop d'illusions sur la société humaine, et puis savoir aussi que, au cours de la vie, dans toute vie d'ailleurs, il y a des moments difficiles à vivre, à passer, et que voilà, en quelque sorte, j'étais aussi préparé à savoir que les relations, elles peuvent être chaleureuses et formidables, qu'à certains moments, elles peuvent se briser, qu'on peut avoir des amis qui se séparent, qu'on peut avoir des amis qui se réconcilient. Voilà, ça fait partie aussi de ce vécu. Voilà, donc il est important de prendre acte et de voilà pour le reste de la vie. Le DFAP, je l'ai retrouvé plusieurs années, même après avoir quitté la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, j'ai été aussi avec mon épouse Martine, nous avons été plusieurs années sur des champs missionnaires qui n'étaient pas le champ du DFAP, mais nous avons continué à vivre cette dimension missionnaire. Et puis nous sommes rentrés en France. Comme je disais, j'étais au collège chez Venol, et puis ensuite responsable d'une maison d'un centre de vacances des églises libres. Et étant dans l'association de la SEPF, j'étais un jour invité à aller à la rencontre des journées des associations portées par le DFAP. Et là, c'est quand même une expérience assez forte et même assez émouvante pour moi, parce qu'au moment où je me suis retrouvé devant ce 102 boulevard Arago, mythique, un porche qui est mythique pour beaucoup d'entre vous, qui l'était aussi pour moi, mes parents avaient été missionnaires de cette maison-là, j'y avais passé une semaine étant enfant avec mes parents. C'est comme ça que j'ai découvert Paris quand j'avais 8-9 ans, ici par une semaine au DFAP. Mais malheureusement, entre-temps, il y avait une rupture, et quand je me suis retrouvé là, j'ai eu un moment d'émotion. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il arrive dans son enfance qu'on a des blessures, et moi j'avais eu une blessure profonde, et qui était liée, personnelle, mais liée aussi avec cette adresse-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai un peu vacillé en quelque sorte. Je me souviens très bien m'être assis sur un de ces bancs qui sont dans la contre-allée, là, entre les arbres. Voilà, tout le monde voit bien ce que c'est. Avoir téléphoné à ma femme et dit, mais je ne sais pas si je peux rentrer. Et je ne savais pas si je devais reculer en me disant, non, mon identité ne me permet pas, ma blessure profonde ne me permet pas de rentrer là. Ou est-ce que j'y vais par bravade? Et ni l'un ni l'autre n'était une bonne solution. Après m'être posé, je me suis ressaisi et un peu tremblant, j'ai poussé la porte et j'ai dit j'y vais. Et là, j'ai dit pour moi, c'est un véritable miracle. L'accueil que j'ai reçu, le regard, et je veux témoigner ici de l'importance que peut avoir un regard bienveillant. Le regard des personnes à l'accueil, c'était un regard bienveillant, souriant, ouvert. Et puis ensuite, l'attitude de toutes les personnes qui animaient cette journée, c'était exactement la même. Accueil, bienveillance, ouverture. Je ne pense pas qu'elles se soient rendues compte, ces personnes-là, du bien que ça m'a fait. C'était une affaire personnelle. Mais ce regard, cette attitude, a réussi à me faire dépasser mon problème personnel. Et ensuite, ce lien s'est prolongé. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de revenir au DFAP et c'est même de redevenu ma maison. Chaque fois que je vais à Paris, je peux aller loger au DFAP. Je peux rencontrer du monde, je m'y sens bien. Et je veux témoigner ici de cet accueil qu'il y a. Et je pense que je ne suis pas le seul à en témoigner parce que j'ai feuilleté le livre d'or. Et combien de fois je vois dans ce livre d'or cette dimension d'accueil, etc. Et donc, dans ce témoignage, je veux d'une part remercier la mission pour tout le bien que j'en ai reçu dans mon enfance. Et je veux remercier le DFAP pour cette dimension d'accueil et de chaleur. Et puis, voilà, mais c'est vraiment aller profondément. Voilà. Et donc je dirais, on ne peut pas forcément se rendre compte de l'attitude que l'on peut avoir. Je pense que la blessure que j'ai eue de mon enfance, c'était une maladresse de la part de quelqu'un qui a dit un mot qu'il ne fallait pas à un enfant. Des fois, on ne se rend pas compte de la maladresse que l'on peut avoir et de la blessure que l'on fait. Heureusement qu'on ne se rend pas non plus toujours compte du bien que l'on fait par un regard ou par un sourire. C'est un témoignage qui me permet d'encourager ici la façon dont on doit être en relation les uns avec les autres. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir une phrase proprement dite de la culture kanak, mais c'est plutôt un ensemble, une attitude. Et ce qui me frappe encore maintenant, c'est l'accueil et le respect. Et ces deux choses-là marchent ensemble. Le respect, il commence par l'attitude de celui qui arrive. Quand on arrive quelque part, en milieu mélanésien, en milieu kanak, parce que maintenant je peux le dire sans problème, il faut commencer par arriver avec humilité et respect. D'ailleurs, la structure, la case kanak, a une porte qui est très basse, qui oblige à se baisser. Ce n'est pas simplement physique, mais c'est aussi moral. On commence par se baisser et on demande l'autorisation de rentrer. Et tant qu'on n'a pas cette autorisation, on reste dans l'humilité. En retour vient l'accueil. Et l'accueil, une fois que l'on a... Alors, C'est vrai qu'en Lifou, on dit qu'on a montré son roi mec, là. On a montré le visage. Il faut commencer par montrer son visage, et quand on a montré son visage sincère, humble et honnête, alors on est accueilli. Et réciproquement, quand on est en position d'accueillant, quand on reçoit quelqu'un dans sa maison, on doit pouvoir le mettre à l'aise pour qu'il soit accueilli et qu'il se sente chez lui. Et tout cela, on le retrouve, c'est un peu le symbole de la coutume, de ce geste. Et je pense que d'avoir été marqué comme ça dans son enfance, parce que forcément, je l'ai vécu, voire subi, au sens où quand on est gamin, on a envie tout de suite de rentrer, de courir partout, et il y a les parents, et il y a les tontons qui disent « Non, non, bouge pas, cours pas, t'as pas encore le droit, etc. » Et puis pendant qu'il y a les paroles, on doit se taire. Dire à un enfant de se taire aujourd'hui pendant que d'autres parlent, c'est pas évident, mais on apprend donc à respecter la parole, on apprend à respecter les paroles, les personnes, les codes, mais c'est extrêmement utile d'accueillir ou d'être accueilli. Voilà un petit peu ce que je retiens de ce que la coutume et la culture kanak m'a apporté. Il y a un chant qui résume assez bien tout ce que nous avons vécu ou tout ce que nous avons partagé jusqu'à maintenant. D'une part, j'ai été imprégné de la culture et de la musique kanak dès mon enfance. J'étais fils de kanak, hein, et je dirais par exemple, essentiellement ce que je n'aurais jamais pu appeler autrement que papa ou maman, c'était Dikonapotin ou Nenahonam, si leurs enfants peuvent reconnaître s'ils savent de qui il s'agit. Et si j'ai des parents kanak, j'ai aussi des frères kanak. Et l'un d'eux, qui porte le même prénom que moi, Jean-Pierre, est passé à la maison il y a quelques années et il m'a un petit peu remonté les bretelles, comme il dit, ou il m'a un peu recadré parce que je ne parlais plus très bien sa langue. Et il m'a remis par écrit les paroles d'un chant que j'aime beaucoup et qui m'a permis ensuite de le retranscrire et de le chanter. Ce chant, il est basé sur l'histoire d'Abraham qui est sous son chêne et qui voit passer des étrangers et qui les appelle et qui les invite à rentrer. Ce chant est magnifique parce que justement, il leur dit « Mes amis, mais venez, arrêtez-vous, venez chez moi et n'ayez pas peur. » Et donc ce chant, pour moi, il représente bien un petit peu tout ce que nous voulons dire. D'une part l'accueil, d'autre part la culture que nous partageons, les chants que nous partageons, et puis aussi ce besoin de s'accueillir les uns les autres, de s'accueillir dans une véritable amitié qui peut même aller jusqu'à la réconciliation si c'est nécessaire. Voilà pourquoi j'ai envie de partager ce chant avec vous aujourd'hui.